Bon matin, bon matin. C'est intéressant de voir. La salle n'est pas pleine, mais on voit plein de gens et c'est bien. C'est réconfortant. Ça fait moins écho que parler dans une salle vide. Et je vous remercie d'être là. Je vous remercie d'être là, vous aussi, en ligne. C'est toujours intéressant de pouvoir, de savoir que l'on parle à quelqu'un, même si on ne le voit pas. Et c'est vraiment réconfortant de voir que la situation ça revient tranquillement à la normale. J'aimerais vous parler d'abord de Malachie, parce qu'on est dans le livre de Malachie, et j'aimerais qu'on lise dans un premier temps. J'aimerais qu'on lise dans un premier temps dans Malachie au chapitre 3, et à partir du verset 13, s'il vous plaît. Vos paroles sont rudes contre moi, dit l'Éternel. Et vous dites, qu'avons-nous dit contre toi? Vous avez dit, c'est en vain que l'on sert Dieu. Qu'avons-nous gagné à observer ses préceptes et à marcher avec tristesse à cause de l'Éternel des armées? Maintenant, nous estimons heureux les hautains. Oui, les méchants prospèrent. Oui, ils tentent Dieu et ils échappent. Vous êtes-vous déjà posé la question pourquoi certains mots dans notre société sont mis à l'index? Vous vous rappelez, durant la dernière période des fêtes, on n'était plus capable de dire « Joyeux Noël ». Le mot « Noël » était banni, on ne pouvait plus en parler, c'était difficile. Lorsque vous parlez à quelqu'un et vous mentionnez le mot « Dieu », c'est « Oh, oh, ça crée un malaise ». C'est la même chose, le mot « péché ». Les gens sont fragiles à ce mot. Ils disent que ce mot nous fait reculer 30 ou 40 ans en arrière du temps que la religion populaire est encore populaire. On voudrait bien le faire disparaître, ce mot-là. On voudrait bien le faire disparaître. On aimerait le remplacer par erreur, malchance, maladie ou mauvaise influence, toutes sortes de choses, mais pas le mot péché. Mais si on veut être honnête, ce mot existe encore, et pas juste dans la grammaire. On regarde la parole textuellement. On prend un livre et on l'épluche verset par verset. Il y a beaucoup d'avantages à le faire de cette manière-là. Le principal avantage, c'est qu'on prêche tout le conseil de Dieu, et c'est une recommandation de l'Esprit de prêcher tout le conseil de Dieu. Mais il y a certains désavantages à faire cela. Lorsque ça ne me dit rien, ça ne m'inspire pas de parler d'une attitude de péché d'une partie d'un peuple il y a 2500 ans. C'est plus ou moins inspirant. Lorsque je regardais les textes au tout début, que je devais faire la prédication, je pensais à mon petit-fils Élie lorsqu'il était jeune et il était dans une clinique, il était supposé recevoir des vaccins. Puis il disait à l'infirmière, mais moi ça me tente pas, moi ça me tente pas, moi ça me tente pas, moi. Puis il répétait ça. Puis je me disais, Seigneur, mais ça me tente pas, moi, Seigneur, mais ça me tente pas, moi. Mais en même temps, dans la même occasion, on a tellement à apprendre sur la relation humain-divin. On a tellement à apprendre sur la grâce de Dieu, sur Dieu lui-même à travers ses textes. Si on se laisse diriger par l'Esprit, on va passer un moment merveilleux même à travers des textes les plus difficiles. On a vu dans les textes dimanche passé que Dieu rappelle une bénédiction à son peuple. Dieu, à plusieurs endroits, il fait des promesses. Et dans le texte qui nous précède, de Malachie 3, 10 et 12, Dieu parle d'une résultante à ses promesses, s'ils obéissent à Dieu. Et j'aimerais qu'on le lise pour nous mettre dans le contexte. Et Malachie 3, juste le texte avant, Malachie 3, verset 10, « Apportez à la maison du trésor toutes les dîmes, afin qu'il y ait de la nourriture dans ma maison. » « Mettez-moi de la sorte à l'épreuve, dit l'Éternel des armées, et vous verrez si je n'ouvre pas pour vous les écluses des cieux si je ne répands pas sur vous la bénédiction en abondance. Pour vous, je menacerai celui qui dévore, et il ne vous détruira pas les fruits de la terre. Et la vigne ne sera pas stérile dans vos campagnes, dit l'Éternel des armées. Toutes les nations vous diront heureux, car vous serez un pays de délices, dit l'Éternel des armées. On voit dans ce texte que Dieu désire créer une relation intéressante, bénéfiante, tout en laissant la liberté de choix à l'homme. Il propose une belle option d'avenir à son peuple. Il n'est pas en train de vouloir les détruire, il est en train de vouloir les bénir. D'autre part, une catégorie de personnes, une catégorie de personnes reproche à Dieu plein de choses. Il reproche à Dieu un service inutile. C'est en vain que l'on te sert. C'est en vain, c'est inutile de te servir. Il reproche un service difficile. Nous marchons avec tristesse. C'est difficile de te servir. Et aussi, il traite Dieu, encore une fois, injuste. Dieu, tu es injuste. Tu bénis les méchants. Les méchants prospèrent. Ces trois versets nous mettent en présence du péché et de ses résultats. Dans la lettre aux Éphésiens, au chapitre 4, au verset 18, Dieu, à travers les écrits de Paul, fait un constat de l'impact du péché sur un pécheur non repentant. Et il nous donne une partie de la réponse à cette question. Pourquoi ces gens qui ont cette pensée, même après avoir lu 10 à 12, après avoir vu les bénédictions que Dieu veut leur donner, ils ont quand même cette attitude-là? D'où ça vient, ça? Et le chapitre 4 d'Éphésiens, au verset 18, va nous dire, c'est que vous ne devez plus marcher comme les païens qui marchent selon la vanité de leurs pensées. Ils ont l'intelligence obscurcie. Ils sont étrangers à la vie de Dieu à cause de l'ignorance qui est en eux, à cause de l'endurcissement de leur cœur, ayant perdu tout sentiment et se sont livrés à la dissolution pour commettre toute espèce d'impureté jointe à la cupidité. Voici l'effet du péché sur le cœur de l'homme qui n'a pas été régénéré par l'Esprit. Mais ça peut être aussi l'effet du péché temporairement sur le cœur du chrétien qui décide de ne pas se laisser transformer par la parole. C'est d'ailleurs ce texte-là que nous avons lu dans Éphésiens est écrit comme une mise en garde sur les enfants de Dieu. Il y a un lien entre ce texte et celui de Malachie. Les effets du péché. Premièrement, il provoque des pensées vaines. Il obscurcit l'intelligence. Il dissocie de la vie de Dieu. Il rend ignorant et endurcit le cœur, la perte de sentiment. Et c'est exactement ce que l'on voit dans ce que l'on a lu du verset 13 jusqu'au verset 15. Qu'avons-nous dit contre toi? Des pensées et des paroles vides de sens, vaines. Dieu qui lit dans les cœurs les confronte à cette réalité. Vous avez dit ça. Mais leur intelligence est complètement dans le noir. Ils ne se permettent de vivre dans le déni. Qu'est-ce qu'on a dit comme toi? Un peu comme un enfant qui a cassé une vitre, qui a encore son bâton de baseball dans les mains, puis qui dit à son père, « C'est pas de ma faute, j'ai rien fait, moi. C'est pas moi. » Ouais, mais t'as encore le bâton de baseball dans les mains. « J'ai rien fait, moi. » Cet enfant-là, il a une intelligence qui n'est pas encore développée, il n'est pas capable d'aller plus loin que ça, mais ces gens-là ont une intelligence obscurcie. Ils ne sont pas capables d'aller plus loin que ça. Qu'est-ce qu'on a dit contre toi? C'est en vain que l'on sert Dieu. Ils n'ont plus la capacité de reconnaître un véritable service pour Dieu. Croyant que leur pensée religieuse, leur manière de faire, était servir Dieu. On sert Dieu, nous autres, de cette manière-là. Oh, mais c'est tout croche, c'est pas ce que Dieu veut. Oh, mais on le sert pareil. Puis c'est dur. Puis ça ne sert à rien. C'est sûr, tu n'as pas la bonne méthode. Un peu comme les pharisiens du temps de Jésus. Les réponses du peuple de Dieu montrent l'obscurité de leur intelligence et en même temps montrent la dissociation de la vie de Dieu. C'est une attitude qui fait en sorte qu'ils se dissocient de la manière de vivre que Dieu demande, que Dieu leur donne. Qu'avons-nous gagné à observer ces préceptes? La première question qui me vient à l'esprit, c'est est-ce qu'ils ont déjà observé les préceptes? Est-ce qu'ils ont déjà respecté ce que Dieu demandait? Et Dieu leur dira au verset 7 du chapitre 3, « Depuis les temps de vos pères, vous vous êtes écartés de mes ordonnances. Vous ne les avez pas observées. » Ils peuvent bien dire que c'est en vain, qu'ils peuvent bien dire qu'ils n'ont rien à gagner à observer les préceptes. Ils n'ont pas observé les préceptes. Ils se dissocient de la vie de Dieu et en plus, ils ne savent pas à cause de l'ignorance qui est dans leur cœur à cause du péché. Ça me faisait penser, lorsque j'ai commencé à apprendre la profession d'enseignant, j'étais à l'université, puis un de mes profs d'université me dit « Tu ne sais pas ce que tu ne sais pas. » Oh, ça, c'était ignorant, ça. Et c'était un peu ça, là. Ils ne savent pas ce qu'ils ne savent pas déjà. On voit dans l'ensemble du discours des cœurs endurcis, et Dieu va dire « Vos paroles sont rudes contre moi. » Vous avez des paroles dures. Le cœur endurci ne voit rien des promesses de Dieu. Leurs objections du verset 15 ont été répondues au début du verset du chapitre 3. Verset 15, il dit « Maintenant, nous estimons les heureux, les hautains, les méchants prospèrent. » Ils avaient le même argument au début du chapitre. Dieu a répondu à ça. Mais ils n'ont jamais tenu compte de la réponse de Dieu. Même s'ils sont ignorants, même s'ils sont informés et instruits, c'est comme si l'enseignement n'entre pas. Tu parles à un mur. Et il y a plus de résultats à parler à un mur. C'est ça que je dis lorsque j'étais enseignant et que les étudiants ne m'écoutaient pas. Je dis, j'ai plus de résultats à parler à un mur, au moins j'ai la réverbération qui me revient. Là, j'ai l'impression que je parle dans un trou noir qui ne répond rien. On peut voir dans la fin du verset 14 la profondeur de leur obscurité lorsqu'ils disent qu'ils marchent avec tristesse à cause de l'Éternel des armées. Ils blâment Dieu de leurs difficultés. Ils blâment Dieu. Ils voient des peuples autour d'eux, des hautains, des méchants, mais ils sont devenus eux-mêmes des hautains et des méchants. Et vous savez, on retrouve les mêmes pensées en 2020, exactement la même chose. Le nombre d'années n'a rien changé. On accuse Dieu des fléaux de la terre qui sont souvent causés par le manque de sagesse, par le péché de l'homme. Dieu devient celui qu'on accuse de nos péchés. Et pourtant, ce sont nos péchés, ce sont notre manque de sagesse qui a provoqué ces choses-là. Mais c'est la faute de Dieu. J'avais lu un texte dans un journal. J'ai voulu le lire parce qu'il parlait contre Dieu. Et c'était affreux ce qu'il disait sur Dieu. C'était aussi pire que ces hommes-là. Et il blâmait Dieu de toutes sortes de choses. C'était lorsque M. Lapierre est décédé aux îles de la Chapelaine, l'écrasement d'avion. Et il blâmait Dieu de la mort de cet homme-là, de M. Lapierre. Voyons donc, c'est quoi le lien? Une intelligence obscurcie. ignorant. Finalement, au verset 15, leur pensée aboutit sur un raisonnement complètement faux, qui ne s'appuie pas sur le discours de Dieu, mais sur une observation, sur une apparence. Ils font de leur vaine pensée une vérité. Un raisonnement faux. Qu'est-ce que c'est, ça, un raisonnement faux? Raisonnement faux, c'est une pensée qui fait notre affaire, qui peut nous donner un certain prestige. Raisonnement faux, c'est ce qui flatte notre ego. C'est quelque chose que l'on fabrique pour avoir raison. Les personnes qui avaient ce raisonnement étaient convaincues que le verset 15 était la vraie raison, la vérité. Nous estimons heureux les hautains, oui, les méchants prospèrent, oui, ils tentent Dieu et ils échappent. Ils sont convaincus de ça. Quel faux raisonnement! Le cœur en est rempli de ces faux raisonnements-là. Il y avait un évangéliste qui rencontre une dame et puis qui pose la question, « Est-ce que vous connaissez la Bible? » La dame lui répond, « Moi, là, je ne crois pas à ça. Moi, je ne crois pas à ça, là, ces affaires-là, je ne crois pas à ça. » Il lui répond, « Est-ce que je vous ai demandé si vous y croyez ou non? Je vous ai demandé si vous la connaissiez. Est-ce que vous la connaissez? Et si vous ne la connaissez pas, comment vous faites pour ne pas y croire ou y croire? » Voyez-vous, le faux raisonnement fait en sorte que « j'y crois pas, donc c'est faux. » C'est faux. Ça ne marche pas, le raisonnement. On a plein de faux raisonnements. Il y a plein de raisonnements qui viennent de la parole de Dieu même. Avec un seul mot, une seule phrase, un seul verset, on va établir notre propre raisonnement. Certains versets peuvent paraître contradictoires, mais si on les étudie dans l'ensemble, si on fait une étude sérieuse du sujet, on peut voir que les versets s'accordent tous pour dire la même chose. Et mon raisonnement est faux. Nous devons mettre nos raisonnements à l'épreuve de la parole pour ne pas partir sur une tangente. Vous savez, il existe plein de religions basées sur des faux raisonnements, sur des choses qui sont interprétées, qui sont fausses. Et peut même amener ça au niveau du dogme, au niveau du principe imposé comme une certitude. Il existait, je ne sais pas si ça existe encore, qu'est-ce qui me vient à l'esprit, c'est les laveurs de pieds. Je n'ai rien contre ces gens-là, c'est correct, ils peuvent le penser s'ils le veulent. Mais si on regarde dans Jean 13, Dieu n'a jamais demandé aux chrétiens de laver les pieds des autres. C'était excessivement culturel dans le temps. Tout le monde se promenait en sandales, se salissait les pieds, et c'était une coutume de se laver les pieds quand on rentre dans une maison. Aujourd'hui, mes souliers sont confortables, puis ça empêche mes pieds de se salir. Personne n'a besoin de me laver les pieds. Mais ils ont pris cette culture-là et ils l'ont emmenée, ils ont dit « maintenant, il faut se laver les pieds ». C'est correct. Sauf qu'ils prennent une métaphore et ils l'emmènent au niveau du dogme. Faux raisonnement. Et ils peuvent continuer à le penser s'ils veulent, c'est leur chose, c'est leur affaire. Mais c'est mon idée aussi. Et il y en a plein de faux raisonnements qui viennent dans notre esprit comme ça et que l'on doit mettre de côté et surtout les approuver par la parole ou les infirmer par la parole selon ce que l'on veut écrire et penser. Voici la manière de penser d'une partie du peuple de Dieu. Parce que une partie seulement, parce qu'à partir du verset 16 et la suite, ce que Michel Penneau va vous emmener dans la semaine prochaine et dans les deux autres semaines, il y a encore des hommes qui craignent l'Éternel, qui réfléchissent, qui disent à quelque part, « Wow, 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 ça ne marche pas, là. Il y a quelque chose d'autre, c'est quand même l'Éternel. C'est quand même lui qui nous a supportés depuis le début. C'est quand même lui qui nous a emmenés jusqu'ici. Et c'est quand même lui qui va continuer à nous servir. » Heureusement, ce texte a été écrit sous l'influence de l'Esprit-Saint. Si ça avait été moi qui avais écrit ça, Si j'avais eu le verset 15b, 15c et 15d, mettons, il y aurait eu une petite place pour y dire « Gang de morons, vous allez en enfer, c'est clair? C'est quoi votre problème? » Mais Dieu n'agit pas comme ça. Dieu relate ce que les gens disent, mais ne les condamne pas. Il relate ce que les gens disent, mais il ne dit pas à quelque part « Vous allez périr à cause de ce que vous pensez. » Dieu ne dit pas ça. Pourquoi? Parce que Dieu désire que le méchant revienne. Et Dieu va s'exprimer de son désir que le méchant revienne à lui. Et j'ai mis 5 versets ici, mais je pourrais en amener beaucoup plus que ça. Juste en regardant quelques minutes, j'ai pu trouver 5 versets où Dieu dit à quelque part que le méchant abandonne sa voie et l'homme d'iniquité ses pensées. Qu'il retourne à l'Éternel, qui aura pitié de lui, à notre Dieu qui ne se lasse pas de pardonner. Car mes pensées ne sont pas vos pensées et vos voix ne sont pas mes voix, dit l'Éternel. Dieu a un cœur qui veut, à quelque part, que sa créature se repente. Dieu a ce cœur-là. Et l'absence de jugement ici nous montre, à quelque part, que Dieu a encore cet esprit-là en lui. Pour ce qui est de nous, Dieu nous recommande dans la première lettre aux Corinthiens de ne pas juger ceux du dehors. C'est Dieu qui les juge. Et il va le faire lorsqu'il sera prêt. Dans la deuxième lettre de Pierre, il nous dit qu'il ne tarde pas, mais qu'il use de patience pour le salut de tous ceux qui sont sauvés. Dieu va juger en son temps, à son heure, mais ce n'est pas à nous de le faire. Nous ne pouvons pas demander aux gens qui ne connaissent pas Dieu comme sauveur de changer leur habitude de vie. On ne peut pas demander ça. Ils ont l'intelligence obscurcie. C'est Dieu qui enlève le voile. C'est Dieu qui révèle les choses. Même lorsqu'une personne accepte le Seigneur, on ne peut pas lui demander de tout comprendre du jour au lendemain. Les gens ont besoin de temps et le Seigneur, dans sa grâce, leur donne ce temps. Car Dieu lui-même va leur montrer. Dieu va faire en sorte que son serviteur va grandir, va progresser. La seule chose que nous avons à faire, c'est de les accompagner et de les aimer, sans diriger leur vie. Et j'ai lu ce texte dans la version français courant qui me fait tellement de bien. Qui était vraiment une réponse à cette ténèbre que le péché emmène. Or, tout ce qui est dévoilé est mis en pleine lumière. De plus, tout ce qui est mis en lumière devient à son tour lumière. J'aime me faire appeler lumière. C'est pourquoi il est dit, « Réveille-toi, toi qui dors, relève-toi d'entre les morts, et Christ t'éclairera. » Quel beau verset! Quel verset que je peux m'attribuer à moi! Quel verset à quelque part que je peux me lever le matin et je me dis « Merci Seigneur parce que tu m'as donné, tu as éclairé mon intelligence. Je suis capable de parler de toi. Je suis capable de m'exprimer parce que tu m'as donné l'intelligence. Tu m'as surtout éclairé mon intelligence. Tu m'as rendu connaissant, non pas ignorant. Tu m'as donné des sentiments que je n'avais pas. Tu m'as donné le véritable amour. Je peux vous dire, ça fait 40, je ne me souviens plus du nombre d'années, je suis marié. Là. Ça, c'est, je vais coucher sur le divan ce soir. Ça fait 40 quelques années que je suis marié avec Hélène. Et j'ai accepté le Seigneur, ça fait quelques années après. Mais j'aime vraiment mon épouse parce que Dieu m'a montré c'est quoi. Avoir ces sentiments d'amour. Parce que ça vient de Dieu. Vous savez, Adam ne savait pas tout le dommage que le péché pouvait faire dans le cœur humain, dans la création, dans l'avenir de l'humanité. Adam ne savait pas ça lorsqu'il a péché, lorsqu'il a pris le fruit défendu. Je ne sais pas s'il l'aurait fait s'il avait su. Mais Dieu, lui, savait. Dieu savait et il a prévu un chemin, une vérité, une vie. Il a prévu cela. Il savait les terribles choses que le péché pouvait faire dans la vie des gens. Dans le livre de la Genèse, au chapitre 2, au verset 3, il est écrit que Dieu se repose de toute son œuvre qui, selon son dire, est très bon. Dieu se repose. On sait bien que Dieu n'était pas fatigué. Mais Dieu est content de ce qu'il a fait. Il a fait une œuvre qui, vraiment, waouh, c'est bon. Un peu comme lorsque vous faites quelque chose chez vous, vous préparez soit un jardin ou soit vous faites un meuble, quelque chose comme ça, et là, vous reculez, puis vous regardez, vous dites, waouh, j'ai bien travaillé, il y a des défauts, mais je suis seul à les voir. Mais c'est beau. J'aime ça. Et c'est ce que Dieu dit. C'est beau, j'aime ça. Mais avez-vous l'idée, avez-vous une idée? Quand Dieu a arrêté de se reposer? Avez-vous une idée? C'est quand Dieu a arrêté de se reposer? Pas tellement longtemps après, dans le chapitre 3, au verset 6, lorsque le péché entra dans le cœur de l'homme. Dieu a arrêté de se reposer drette là. Dieu a commencé à travailler à un plan de rédemption. Dieu a commencé à vouloir reconquérir le cœur de sa créature. Le cœur de sa créature. Vous savez, Satan a tenté l'être humain dans le jardin d'Éden. Mais cette tentation a été l'occasion que l'homme a chuté. Ça, on le sait tous, on connaît tous l'histoire. Cependant, cette tentation-là n'était pas la cause. Ce n'est qu'une tentation. Il n'existe aucune forme extérieure, aucune influence qui cause le péché. Le péché a été un mouvement de trahison, de transgression du cœur, de la pensée et de la volonté d'Adam. Ce n'est que ça, le péché. Et à cause de ce mouvement-là, Adam et sa descendance, donc nous, nous sommes les seuls responsables. Satan a été blâmé pour ce qu'il a fait, mais ce n'est pas la cause du péché. Ce n'est pas Dieu qui va nous tenter, comme Jacques dit. Ce n'est pas une situation extérieure. Ben oui, j'ai recommencé à boire, il y a quelqu'un qui a bu en avant de moi, c'est de sa faute à lui. Non, c'est ton cœur. C'est toi qui as décidé de tomber, c'est toi qui as décidé de trahir, c'est toi qui as décidé de transgresser. Voilà le vrai problème. Voilà ce qui n'est plus aussi bon. Dieu ne pouvait plus dire que c'était très bon, ça avait été sali. Voilà pourquoi que Dieu s'est mis à travailler. Mais à partir de ce moment précis, Dieu s'est mis au travail pour un plan merveilleux, pour un plan fantastique, pour retrouver ce qui était très bon. On voit bien que la création se dégrade. On voit bien que tout part en friche. Tout se dégrade. Mais ce qui s'est dégradé le plus, et ce qui s'est dégradé en premier, c'est le cœur de l'homme. Et Dieu voulait régler cela. Dieu voulait retrouver ce qui était très bon. Vous savez, la création, on l'a vu, à cause de la COVID, la pollution était beaucoup moins... Les villes enlevaient le smog, les villes se régénéraient. Vous arrêtez de polluer un ruisseau, le ruisseau se régénère par lui-même. Voilà la création. Mais le cœur de l'homme, qu'est-ce qui le régénère? C'est l'action de Dieu dans sa vie. C'est l'action de Dieu qui opère. Et Dieu a ce plan merveilleux pour le cœur de l'homme. Et dans ce plan, il y a une personne principale, et c'est lui-même, dans la personne de Christ. C'est la personne principale dans ce plan merveilleux. Christ Et Dieu travaille à retrouver la relation avec sa créature, de la créature avec son créateur, ce qui était très bon. Et Christ dira dans Jean 4, 34 qu'il a achevé le travail qui lui a été confié. Et c'est ce qui lui a été confié. Il va dire dans Jean 17 qu'il a achevé l'œuvre qui lui a été donnée de faire. Christ avait une œuvre à faire. Être le médiateur entre Dieu et les hommes. Être celui qui fait le point d'union et qui régénère le cœur, qui permet au cœur d'être régénéré. Christ a décidé de rétablir ce qui était très bon. Le cœur de la créature avec qui il avait une relation désirée et désirable. Cette relation avec Dieu amène beaucoup de tribulations parce qu'ils se battent contre un cœur qui est sans intelligence, qui est obscurci et qui se révèle. Mais combien de bénédictions, combien de promesses qui sont accomplies. Je peux jouir de la vie parce que Dieu m'a donné la vie. Avant, je pouvais juste jouir de ce que j'avais devant moi, c'était très limité. Aujourd'hui, Dieu m'a donné la vie, m'a donné l'intelligence, m'a donné la connaissance pour que je puisse jouir de la vie. Et c'est ce que Dieu me donne. Frères et sœurs, lorsqu'on réalise de quoi Christ nous a sauvés, lorsqu'on réalise qu'il nous a libérés non seulement de la condamnation, mais il nous a libérés aussi des ténèbres, il nous a libérés d'une confusion que le péché apportait. Voilà de quoi il nous a libérés. Nous sommes de vrais hommes maintenant et de vraies femmes, il faut dire, des vrais êtres humains, entièrement, complètement, tout simplement parce qu'il nous a donné ce qui nous manquait, lui, dans nos vies. Comment? Comment rester muet? Comment se taire? Comment est-ce qu'on fait pour ne pas dire toute notre reconnaissance à Dieu? Comment est-ce qu'on fait ça? Chassons nos craintes. Chassons nos peurs du jugement. Mettons ça à côté. Et disant à quelque part, « Dieu, tu mérites que je me lève, que je te dise avec tous mes défauts, avec tous mes mauvais mots, avec toutes mes erreurs, que je t'aime. » Il y avait un homme, il y a des années, au début de ma vie chrétienne, c'est un anglophone qui voulait apprendre le français. Et vous savez, quand vous apprenez une nouvelle langue, vous êtes ailleurs, puis que vous n'avez jamais personne avec qui parler, ça devient extrêmement difficile. Je l'ai vécu un peu lorsque j'étais aux États-Unis. Je ne connaissais pas beaucoup l'anglais. Puis à un moment donné, tu rages parce que tu n'es pas capable de t'exprimer. C'était environ la même situation. Mais il tenait tellement, il avait tellement un cœur pour dire à Dieu qu'il l'aimait. Comment je vais faire? Mais il s'est levé durant le repas du Seigneur. Il est allé en avant. Puis tout ce qu'il a pu dire, c'est « Seigneur, je t'aime ». Très mal dit avec un accent horrible. Tout le monde l'a compris. Puis tout le monde a glorifié le Seigneur. Il a été avec toutes ses peurs, avec toutes ses craintes, avec tous ses défauts, et il les a donnés à Dieu. Et Dieu a béni. Comment se taire? Comment rester muet devant ce cadeau immense lorsque je regarde le péché du monde que Dieu m'a donné? Prions. Seigneur Dieu, nous te remercions, nous te rendons gloire que tu nous aies donné autant. Permets que l'on voie ça encore, Seigneur. Permets que l'on voie à quelque part qu'est-ce que tu nous as vraiment donné. Quel cadeau immense. Merci, Seigneur. Merci infiniment pour ta gloire. Merci pour ta grâce sur nous et pour ce que tu fais avec nous. Amen.